Alternantaise, alternantais. On vit décidément une époque formidable, comme disait Reiser. Formidable dans le sens de pas ordinaire. Quoique, au regard de l'histoire, c'est peut-être en fait une situation très ordinaire. Mais aujourd'hui, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Je parle de la réécriture de l'histoire par divers gouvernements. On se rappelle l'Union soviétique où l'on effaçait des photos officielles les membres du parti qui n'étaient plus dans l'odeur de sainteté. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est tous les jours que nous avons de telles fausses nouvelles. Et ils ne se contentent pas d'effacer, ils inventent. Et nul besoin d'une injonction d'un quelconque gouvernement pour ça. Là où le gouvernement russe intervient aujourd'hui, sans passer par l'IA, c'est dans la réécriture de l'histoire et de la géopolitique. Et le médium, ce sont les profs. Regardez le film de Pavel Talankin, Mr. Body contre Poutine, qui vient d'avoir l'Oscar du meilleur documentaire. Il est visible sur la plateforme d'Arte. Il y a une scène ahurissante. Un prof d'histoire géo y parle de la France comme d'un pays en développement. Je cite. « Ils ne cultivent quoi que ce soit en Europe ou ailleurs. Ils n'ont pas de blé ni d'huile. En France, ils mangent des huîtres et des grenouilles, mais ça ne suffira pas. » Il rajoute que pour faire un plein d'essence, les habitants doivent payer plus de 150 euros. Bien sûr, on entend également une autre prof faire le procès en règle du régime nazi ukrainien. Voilà le révisionnisme et les vérités alternatives telles qu'elles apparaissent dans ce documentaire. De l'autre côté de la map monde, les États-Unis de Donald Trump courent derrière Poutine pour être le premier dans la réécriture de l'histoire, telle que sur l'esclavage. À titre d'exemple, à Philadelphie, la seconde résidence du premier président des États-Unis, George Washington, présentait jusqu'à peu des panneaux explicatifs sur l'esclavage et le fait que ce père de la Constitution avait fait travailler au total 577 esclaves dans sa plantation de Mount Vernon. Inadmissible pour Trump, si bien que son administration a fait disparaître ces panneaux. Dans l'Amérique de Trump, ce n'est pas convenable de mettre en avant la réalité historique. Autre exemple, dans le National Portrait Gallery à Washington, qui présente les portraits des présidents, à côté de celui de Trump, il y avait un panonçon, comme dans tous les musées, donnant quelques explications. Malheureusement, celui-ci avait l'outrecuidance de signaler que Trump avait subi deux procédures de destitution, les fameuses impeachments, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Le panonçon a disparu comme par magie. En France aussi, l'histoire officielle est sans cesse remise en cause. Que ce soit Zemmour, qui fait passer Pétain pour quelqu'un ayant sauvé des Juifs, jusqu'à Sarkozy dans son discours de Dakar en 2007, qui dit « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire ». On voit les dérives quand l'histoire est écrite par les vainqueurs, les colonisateurs. Mais c'est tout de même un peu fort de café quand on repense au royaume mandingue qui s'étendait sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, régissime et très puissant pendant plus de 350 ans. Et les murs jusqu'à 10 mètres de haut montés sans mortier en moellons de granit au Zimbabwe à partir du XIe siècle qui n'ont rien à envier aux pyramides incas ou égyptiennes, sans parler de leurs palais. Et leurs croyances spirituelles ne sont par ailleurs pas plus stupides que de croire à un être suprême. Comme quoi les Africains n'ont pas entendu les Blancs pour entrer dans l'histoire, leur histoire. Et qui sommes-nous pour dire « Heureusement, nous étions là, nous les colonisateurs, pour que l'Afrique se civilise ?» Mais le roman national, c'est aussi l'utilisation de Clovis, qui ne régnait d'ailleurs pas sur le territoire de la France actuelle, ou celle de Jeanne d'Arc, peut-être une guerrière, mais aussi une illuminée tout de même. Le roman national peut aussi être un roman régional, tel que celui de la Bretagne. En effet, le triskel se rencontre depuis le néolithique dans diverses cultures et à diverses périodes, parfois sous d'autres formes, des jambes par exemple. Les entrelacs n'étaient pas une spécificité celte et l'hermine se trouvait déjà sur d'autres armoiries avant d'être sur le drapeau breton. Certes, aujourd'hui, ce sont des symboles de la celtitude et de la bretonitude, mais quelque part, ce sont de jeunes symboles. Sans oublier que les celtes n'étaient pas cantonnés au pays dit celtique d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que s'il y a bien un corps de chercheurs des sciences humaines important, c'est celui des historiens. Ceux-là même qui, suite à de nouvelles découvertes scientifiques, sont capables de se remettre en cause, mais avec des éléments concrets au nom de la vérité historique, et non pour écrire un roman national à la seule gloire du pays. Et c'est pour cela que, pour une fois, je vous invite à suivre sur YouTube ou Facebook, notamment Benjamin Briot, dit Nota Bene, un vulgarisateur historien et ses équipes qui travaille en collaboration avec des historiens, des archéologues. Récemment, il a remis l'histoire au milieu du village avec un épisode sur l'histoire des Harkis. Je vous en souhaite une bonne écoute.